on en parlait avec Eric avant. J'apprends que j'ai un peu maintenant une odeur plus que sulfureuse. Alors, je sais pas, c'est parce que j'ai fait un livre sur Jésus qu'on me considère un peu comme le diable dans le milieu de la BD, ce qui me chagrine beaucoup parce que la BD fait vraiment partie de ma culture. Je sais pas si c'est tout de suite on peut rentrer dans ce débat, mais je crois qu'on est dans un débat assez complexe. On est dans un changement de paradigme qui dépasse même le cadre de l'art, et c'est évident que ça modifie. Après, je pense que pour moi, c'est ce qu'on peut appeler le prompt art. C'est plutôt quelque chose qui est différent. C'est comme la photo avec la peinture, mais ça remplacera jamais le dessinateur. Ouais.
Ryan, on va y aller franco. Pour moi, l'IA, c'est le serpent de la tentation.
Ah oui.
C'est-à-dire que dans la Bible, la Genèse, le serpent, il a pris Adam et Ève, et puis Ève a croqué la pomme. Et ensuite, ils sont passés dans un monde où il fallait travailler. Eh oui. Et ben là, le serpent de la tentation de l'IA, c'est tout le contraire. Ils ont dit, ne travaillez plus. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur un bouton et vous revenez dans ce jardin d'Éden où toute la création va vous être donnée. Ça va vous dégodiner du ciel.
Même s'il y a des échanges, justement, des instructions
mais
qui sont
données. Le serpent était un magnifique transmetteur de connaissances, cher monsieur. Non, très sincèrement, moi, je travaille avec des dessinateurs et pas seulement avec l'argot. Des BD comme l'argot, c'est une
barre.
L'argot Winch, ça continuera. Mais j'ai travaillé, par exemple, sur l'affaire du médiateur en BD avec un jeune dessinateur du Prat. C'est des gens, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin d'avoir du travail. Et c'est des gens talentueux. C'est tout d'un coup, vous dites, Alia, bah, vous allez placer ce dessinateur, il va coûter moins cher. Et hop, c'est comme ça. Dans 5 ans, il y a les dessinateurs, mais il ne va pas y en avoir beaucoup.
Je pense que pour sortir des métaphores christiques et diaboliques, puisque c'est un peu mon rôle de chercheuse, je pense... Il faut quand même remettre les choses à leur place. L'IA, c'est quand même une économie de la promesse. Et tous les discours qui l'accompagnent, d'ailleurs que ce soit les gens qui sont favorables à son déploiement ou très opposés, qui vont nous dépeindre des tableaux apocalyptiques de l'avenir de la création, sont en fait décrivent ce qui est une reconfiguration de ce que le sociologue Howard Baker appelait les mondes de l'art, qui sont des mondes multiples où il y a des tas de travailleurs qui sont impliqués. Je pense que quand on parle de collaboration avec l'IA, on fait un peu une erreur, parce que l'IA, c'est pas une personne, c'est vraiment un outil. Et un outil, et ça c'est un vrai problème, qui est entre les mains de certaines industries qui ont peut-être un certain pouvoir dans ce rapport de force qui se joue au sein des économies de la création aujourd'hui. On y reviendra et c'est là sûrement que les régulations doivent intervenir plutôt que dans la prescription aux artistes en leur disant oui ou non, vous devez absolument vous emparer de ces nouveaux
outils. On parlera des régulations, mais juste votre réaction.
Parce qu'on parle de IA et création. Moi, c'est vrai que j'utilise énormément l'IA pour créer des images, pour brainstormer. Par exemple, pour l'écriture littéraire, ça m'est même jamais traversé l'esprit d'utiliser l'IA. Pour moi, c'est mon rapport au monde, il est artistique. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance entre se servir de l'IA comme un outil et demander à l'outil de créer, à l'IA de créer, ce qui pour moi est totalement différent. Je vois pas du tout l'IA comme une source de création. Je le vois comme un pinceau supplémentaire, en fait. Moi, je l'ai vu comme un nouveau joujou. J'avais fait de la VR, j'ai fait du cinéma. Ça m'a tout de suite éclaté. Mais je me suis jamais dit, je vais demander à l'IA d'écrire un livre.
Alors, évidemment, vous pouvez taper maintenant n'importe quel héros. Je vous fais le scénario de James Bond, moi, mes bouquins, mes marcas, c'est pareil. C'est là où c'est extrêmement préoccupant, parce que c'est pas si mauvais que ça.
Oui.
C'est basique, mais c'est pas si mauvais. Je vais vous donner un exemple. Je dois rendre mon bouquin, là. J'ai mon éditrice, d'ailleurs, qui me regarde, et je devais lui rendre il y a depuis un bout de temps. Si j'avais l'IA, je l'aurais rendu il y a un mois.
Mais donc, ça met en danger votre job de
scénariste.
Oui, parce
que je veux dire, pourquoi ça pose un problème. À un moment donné, je fais une description, j'assassine un cardinal sur une pyramide mexicaine. Bon. Et à un moment donné, je suis allé au Mexique il y a très longtemps, j'avais envie de décrire ça. Et franchement, la description, parfois, ça prend du temps. C'est pas forcément le plus sympathique. Bon, bah, je voulais voir ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait. Ça devait être 2h du matin et je regardais sur l'IA. C'était pas si mal sur l'IA. Et ça, c'est inquiétant parce que je me dis, mais après tout, moi, je ne veux pas le faire, je ne rentre pas là-dedans, mais qu'est-ce qui empêche de le faire? Personne va me contrôler.
Vos scrupules vous ont arrêté. Ça veut dire votre éthique et vos scrupules.
Voilà, mais
parfois, ça peut être complémentaire. Pour vous, c'est complémentaire.
Oui. Bah, un peu le contre-pied, je m'en serais pas servi, par exemple, pour une description littéraire. Moi, j'adore écrire, donc mais je m'en sers, par exemple, pour un brainstorming, par exemple, pour un truc de scénario comme ça. Moi, parce qu'on va avoir une succession d'idées et dessus, on va pouvoir rebondir. Moi, ça me challenge intellectuellement, en fait, c'est ça.
Alors, c'est que vous dites, on sait que ces systèmes se sont entraînés sur des œuvres existantes. En fait, on ne sait pas vraiment, et c'est vrai, c'est ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire que...
On ne peut pas le prouver.
Qui avait été proposé dans le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté au printemps dernier par l'Union européenne, c'est que ces IA génératives soient transparentes sur leur base de données d'entraînement. Et suite à un certain nombre de tensions et de lobbying au sein, et notamment où certaines boîtes françaises ont été très impliquées, on a décidé qu'il ne fallait plus être totalement transparente, mais offrir un résumé suffisamment explicite des bases de données d'entraînement, ce qui est totalement flou et qui va poser énormément de problèmes de mise en œuvre, ça en pose déjà, et c'est pour ça que les sociétés d'ayant droit se mobilisent sur ces sujets. Parce qu'en fait, c'est difficile à prouver. En ce moment, il y a un procès qui oppose la guilde des auteurs américains, dans lesquels on retrouve des auteurs comme George Martin, auteur des fameux Games of Thrones, ou John Grisham, ou Jonathan Franzen, contre OpenAI, parce qu'ils veulent prouver que OpenAI s'est nourri sur leurs livres, et en fait c'est très compliqué donc de prouver ça, parce que les enjeux financiers derrière, comme vous l'avez rappelé,
sont énormes. Oui, dans le cas de
Grisham,
oui, c'est
sûr. Je pense que moi je me suis inspiré de tous les artistes qui ont été sur Terre avant moi et qui ont créé, et j'ai trouvé ça cool. Si demain l'IA prend mes œuvres, déjà bon, franchement, faut déjà qu'elle les prenne.
Bah, elle prend tout, vous le savez.
Elle prend tout.
Il y a un moment donné où ça peut ressortir ailleurs.
Ou des œuvres comme ça, je comprends que ce soit signifiant. Pour ce qui est de mes livres, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui va bouleverser la vie de l'IA, d'une part. Mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, je trouve que c'est la moindre des choses qu'un artiste puisse dire « Je n'ai pas envie que mes œuvres servent à l'IA. » Et ça, ça devrait être, je veux dire, un droit absolument inaliénable.
Ça, c'est le droit inaliénable.
C'est le plus gigantesque braquage culturel depuis l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que vous avez sur une sorte d'open source, dans un gouffre, personne ne sait ce qu'il y a, toutes les œuvres. C'est une spoliation.
Mais on l'avait dit avec Internet aussi, et ça n'a pas empêché la création.
C'est vrai, mais à partir de là, vous allez utiliser toutes ces spoliations pour créer de nouvelles œuvres, et ces œuvres-là, vous allez en faire des objets commerciaux. Consulter ces œuvres en open source, pourquoi pas, encore faut-il qu'il y ait des droits d'auteur, mais là ça va beaucoup plus loin, c'est le step suivant. Et c'est là où c'est un propre problème, il y a ce qu'on appelle une singularité. Une singularité, c'est qu'à un moment donné, vous basculez d'un monde à l'autre. Pourquoi il y a 34 000 artistes qui se mobilisent? Pourquoi du côté littéraire? Il y a quand même une inquiétude monstrueuse. Et moi, je veux bien que, alors avec ce sommet de l'IA, et c'est très bien, il faut qu'on soit fort, que Macron le fasse
par rapport aux Américains et aux Chinois,
notamment. Très bien, il faut gonfler les muscles. Mais vous savez qu'en ce moment-là, il y a eu le contre-sommet de l'IA, personne n'en parle, avec la Ligue des auteurs, pour dire, attention, on existe aussi.
Avec notamment le philosophe Eric Sadin.
Voilà, et donc, ce qui serait bien, ce serait que tous les intervenants puissent se réunir autour d'une table, et pas seulement les GAFA, mais les gouvernants avec leurs conseillers culturels.
Anne Belon, mais c'est quoi la solution?
Opt-out par principe.
C'est-à-dire ça veut dire par quoi en français, pardon?
En fait, les auteurs refusent que leurs œuvres soient utilisées
sans
par
leur consentement. D'ailleurs, c'est le mot choisi dans le cadre de cette pétition, et le mot est fort.
Il faut qu'il y ait une acceptation, un consentement explicite des auteurs pour qu'on utilise leurs œuvres. Après, là où je rejoins un peu Vincent, c'est quand même cette question du droit d'auteur, c'est vraiment une très vieille question. Et à chaque révolution technologique, on en revient au même débat. Et à chaque révolution technologique, il y a quand même un coup de force des ayants droit qui ne sont pas les artistes. Voilà, il y a beaucoup de droits d'auteur qui sont possédés, en fait, par des industries culturelles et qui ne rémunèrent pas directement les artistes. Les artistes sont parfois un peu les parents pauvres de cette économie du droit d'auteur. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et comme je le disais dans la citation de moi-même que vous avez faite au début de cette émission, en fait, c'est vraiment un enjeu de rétribution de la valeur. Ouais. Et c'est comment les auteurs vont aussi jouer collectif pour défendre des droits. On l'a un petit peu vu, par exemple, lors de la mobilisation des scénaristes à Hollywood. Il y avait quand même l'enjeu derrière, c'était beaucoup l'IA. Ouais. Et Paul Schrader l'a bien dit, il disait, notre enjeu, c'est pas qu'on va être remplacé par les IA, c'est est-ce que les productions, elles vont moins bien nous payer?
Est-ce qu'on sera rétribué?
Tout l'enjeu va être sur les acteurs économiques, en particulier, par exemple, je demande en littérature, mais le monde du cinéma, je ne connais pas trop. Est-ce que les éditeurs, pour un moment donné, faire preuve de force et de lobbying, comme ils l'ont fait pour la... Je veux être un peu plus jeune que moi, la loi du livre, sur la vente du livre, la loi Lang. Le prix du livre, ça, à l'époque, ça a sauvé le monde de l'édition et s'assurait, on est quand même, c'est performant dans le monde entier, on a donné l'exemple. Est-ce que maintenant, en littérature, les éditeurs, les auteurs en se disant on va faire quelque chose pour protéger, sanctuariser et permettre à des créateurs de continuer leur métier.
Mais c'est-à-dire avoir un forfait, je veux un forfait en échange de ce que je peux donner à l'IA, parce que vous n'allez pas empêcher l'IA. Comment
on ne peut pas empêcher, mais en revanche, je pense qu'il y a des parades au niveau de la législation, et ça, il faut discuter entre nous. Encore une fois, moi, je suis moins menacé, mais mes ouvrages noirs, je pense à tous les jeunes auteurs et les nouveaux entrants. Eux, ça va être catastrophique si on ne les protège pas.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Mon rapport d'artiste au monde, enfin, je veux dire, moi, je vis pour créer, je suis désolé de cette petite coquetterie, mais encore une fois, moi, je ne me sers pas de l'IA pour créer, je me sers de l'IA pour, comme d'un outil, je ne peux pas le dire mieux. Donc, cette limite, elle est intrinsèque au fait que je n'écrirai jamais, je ne ferai jamais écrire un de mes livres par l'IA, c'est tout, j'aime trop écrire.
Mais alors, il y en a certains qui s'inquiètent aussi de l'impact sur le langage. On voulait vous faire écouter.
Intéressant cette réaction d'Alexei Greenbaum, parce que, en fait, ça. Moi, pour moi, la tentation, elle vient assez peu du côté des artistes. Et d'ailleurs, en fait, on n'a pas encore beaucoup d'interviews, d'entretiens sociologiques qui nous donnent du recul. Mais les quelques études qu'on a sur l'utilisation de l'IA par des artistes. Bah, ça rejoint cette idée que c'est un nouvel outil, que ça stimule en fait la création plus que ça ne la bride. Par contre, la tentation, elle est du côté des industries. Et c'est une très vieille tentation. La culture, c'est une industrie assez risquée. On ne sait pas pourquoi. Parfois, on dépense des millions de dollars et puis le film fait un flop. Il y a un article de sociologie canonique que j'aime beaucoup qui s'intitule « Tous les hits sont des coups de chance ». Et c'est vraiment contre ça que se battent toujours les industries culturelles, avec une tentation de la standardisation. Bah oui. On voit sur plein de plateformes qu'on utilise, etc. Et à laquelle répond en partie.
Et on le vend en musique aussi.
N'importe quel internaute, c'est Ghostwriter.
Oui.
Donc tout le monde s'est dit que c'était quand même quelqu'un qui était extrêmement doué et qui visiblement travaillait dans
le musical. Mais ça pose la question, question de l'appropriation d'un art de faire, d'un savoir-faire, non ?
Alors moi, rebondir sur autre chose. Vous avez pensé que je prends tout à fait le contre-pied de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais moi, je suis inquiet sur un truc. On n'en parle jamais, mais la manière dont on se spatialise, par exemple. Vous voyez, avant, on arrivait à se repérer dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir du métro sans avoir son téléphone pour aller jusqu'au restaurant. Et mine de rien, on est en train de perdre un sens qui est notre sens du rapport à l'espace. Et moi qui travaille quand même beaucoup avec l'IA sur des brainstorming, ça pense tellement vite qu'à un moment donné, je sens que l'IA vient prendre le pas sur mon mécanisme cérébral. Bon, moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai l'âge que j'ai tout de même un background et tout ça. Mais je me dis que des jeunes...
C'est ce que vous dites,
Il y a
une fracture générationnelle quand même.
Mais est-ce que l'IA ne va pas penser à la place des générations
Alors, c'est là où on peut intervenir, parce qu'il faut donner des solutions. J'ai vu qu'Elisabeth Borne va lancer des formations autour de l'éducation nationale pour se former à l'IA. Très bien, ça, il faut le faire. Mais dans le même temps, formons les jeunes générations à faire la différence entre une production culturelle avec une IA et une production culturelle, on va dire, fait maison du terroir.
Ou une œuvre d'art.
Et ça, si on ne fait pas cette formation maintenant pour les futures générations, on s'en mordra les doigts dans 20 ans.